Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'IGEOBOX. Nous nous intéressons aujourd'hui à la musique sous le Troisième Reich. Nous verrons que les nazis ont un rapport ambivalent avec la musique. Elle est bien sûr un puissant vecteur d'embrigadement à condition d'avoir défini ce qu'il est possible ou pas d'écouter en tant qu'allemand. Dans cette optique, la musique est mise au pas. Toute forme d'innovation artistique sortant de la ligne définie par le régime est proscrite, tout comme sont bannies les influences étrangères. Les artistes juifs sont quant à eux persécutés et leurs œuvres interdites. C'est parti. En 1918, la République est installée en Allemagne. Le nouveau régime doit signer le traité de Versailles en 1919, ce que de nombreux Allemands vivent comme une injustice et une humiliation. L'hyperinflation du mark en 1923 fragilise considérablement la République de Weimar, un régime qui parvient néanmoins à se stabiliser dans la deuxième moitié de la décennie. La levée de la censure impériale libère les arts qui connaissent alors un foisonnement créatif exceptionnel. Le dadaïsme, l'expressionnisme, la nouvelle objectivité révolutionnent les arts visuels mais aussi la musique. À l'aube des années 1930, le Kroloper de Berlin s'impose comme le haut lieu des créations modernes de la République de Weimar avec des mises en scène très audacieuses. Otto Klemperer, le directeur musical du Kroloper, dirige une suite orchestrale de l'opéra de Katzou de Kurt Weill. On peut y entendre une musique ouverte aux influences étrangères, en particulier le jazz. Dans les années 1920, les jazz bands se multiplient, jouant foxtrot, shimmy et charleston dans les cabarets et dancing. Une des formations les plus connues se nomme les Winthrop Syncopators. Son chef d'orchestre est pianiste. Friedrich Hollander, c'est son nom, signe les musiques de L'Ange de Joseph von Sternberg. La chanson la plus célèbre du film, Ich bin von Kopf bis Fuß, est un immense succès qui ne contribue pas peu à la popularité de Marlene Dietrich.
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie?
La République de Weimar est surtout fragilisée par la crise économique de 1929. Adolf Hitler profite de cette situation. À la tête du NSDAP, son parti politique, il accuse la République, les Juifs, les communistes d'être responsables des difficultés du pays et remporte de grands succès électoraux. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier, chef du gouvernement. En quelques semaines, il obtient les pleins pouvoirs et instaure une dictature. Les élections sont supprimées et des opposants politiques arrêtés par la Gestapo, la police politique, et seul le NSDAP est autorisé. L'Allemagne, sous le joug nazi, devient un État totalitaire. Le strict contrôle de l'État nazi s'abat sur l'ensemble de la société allemande. La propagande impose le culte de la personnalité. Hitler est présenté comme le guide, Führer. Des organisations du parti encadrent les adolescents au sein des jeunesses hitlériennes. La propagande est partout. Et l'endoctrinement se fait aussi en chansons. La musique constitue un puissant levier d'embrigadement car elle s'adresse d'abord à l'émotion et s'inscrit parfaitement dans les mises en scène géantes du régime. Le Troisième Reich accorde la plus grande attention à l'endoctrinement de la jeunesse. Le chant choral, censé créer une dynamique de groupe, est privilégié, tandis que les rythmes répétitifs accompagnent parfaitement les marches et défilés militaires chers aux nazis. Enfin, les thématiques du sang et de la terre, Blut und Boden, ont la faveur des instructeurs. Lors des rassemblements et des activités en groupe, les jeunes doivent chanter fort, comme nous venons de l'entendre précédemment. L'hymne des jeunesses hitlériennes insiste sur la soumission absolue au Führer. Je cite « en avant, chantent les joyeuses fanfares. En avant, la jeunesse se moque du danger. Führer, nous t'appartenons, tous les camarades t'appartiennent, et le drapeau nous conduit vers l'éternité. Oui, le drapeau est plus fort que la mort. » Les chants du début du mouvement national-socialiste sont la plupart du temps de simples adaptations, emprunts, reprises, contrefaçons de chants populaires et patriotiques existants dont le son s'est subverti. Ni le texte, ni la musique ne sont originaux. C'est le cas du Horst Wessel Lied. Horst Wessel, obscur chef aïeul nazi assassiné en 1930 dans le cadre d'un règlement de compte, devient, par la magie de la propagande, un saint martyr du nazisme. Le chant qui lui rend hommage s'impose comme hymne officiel du parti nazi. Les Volkslieder, littéralement les chants du peuple, sont compatibles avec l'imaginaire volkisch. Chantés à l'unisson, ils contribuent à l'édification de la pseudo-communauté aryenne. Les grands compositeurs allemands, à la condition qu'ils ne soient pas juifs, sont exaltés. Bach, Bruckner, Beethoven sont présentés comme des paradigmes du génie créateur aryen. Bien que hongrois, Liszt, par le miracle de la propagande, devient allemand. Goebbels peut affirmer que l'Allemagne est le premier peuple musicien de la Terre. Wagner fait l'objet d'un véritable culte et devient pour les nazis le promoteur d'un art authentiquement allemand. Antisémite notoire, auteur d'un essai intitulé La juiverie dans la musique, il est considéré par Hitler comme le compositeur quasi officiel du régime. Ses opéras revisitent les mythologies nordiques. Sa maison à Bayreuth devient un des temples du nazisme, tandis que ses compositions accompagnent les grands rassemblements, comme la chevauchée des Valkyries ou les maîtres chanteurs de Nuremberg, dont le chœur proclame fièrement « Le Saint-Empire romain germanique pourra s'effondrer, toujours subsistera l'art saint et noble allemand ». Dès l'arrivée au pouvoir des nazis, la vie culturelle est placée sous contrôle. Goebbels, en tant que président de la Chambre de culture du Reich, organise et encadre toutes les professions artistiques dont il exclut les juifs. La vie musicale est organisée et contrôlée par le Reichsmusikkammer. Alfred Rosenberg, l'idéologue du parti, s'emploie à l'aryanisation de la vie musicale. Dans cet esprit, en mai 1938 se déroulent à Düsseldorf les journées musicales du Reich, au cours desquelles une exposition de propagande dénonce la musique dégénérée. Entartete Musik, jetant l'anathème sur toute innovation artistique. Le jazz est dénoncé comme une musique à la fois juive, bolchevique et nègre. L'affiche de l'exposition représente d'ailleurs un saxophoniste noir arborant une étoile de David au revers de la veste, condensé de tout ce que le régime vomit, le juif, le jazz, l'Amérique, le noir. Sous la République de Weimar, le jazz jouit d'une popularité exceptionnelle, en lien aussi avec l'émergence de l'explosion d'une culture de masse. Ernst Krenek triomphe alors avec l'opéra jazz Johnny Spieltoff. Nous venons de l'écouter à l'instant. L'accession au pouvoir des nazis change la donne. Les nouveaux dirigeants fustigent l'usage excessif des syncopes et de la batterie. Pourtant, en dépit de l'interdiction de diffusion du jazz à la radio, le succès du genre ne se dément pas. Ce qui contraint les autorités à mettre de l'eau dans leur bière en germanisant les plus grands succès. Pour le national-socialisme, la musique se résumait donc à une opposition manichéenne entre musique allemande et musique dégénérée, un terme dont l'absence de définition précise permettait d'interdire toute œuvre suspecte. Le bannissement d'un auteur et de son œuvre se fonde sur des critères raciaux, mais aussi sur une base esthétique. Ainsi, toutes les avant-gardes artistiques sont censurées et condamnées. Au fond, les nazis détestent le foisonnement culturel de la République de Weimar, assimilant l'esthétique musicale au régime politique. Ainsi, la musique d'Arnold Schoenberg, inventeur du dodécaphonisme, est considérée comme subversive, intellectuelle, loin des préoccupations du peuple. Sa musique ne trouve plus droit de cité à la fois parce que son auteur est juif, mais aussi en raison de son audace moderniste. Les œuvres des illustres compositeurs juifs passés sont mises à l'index. Mahler, Offenbach ou Mendelssohn ne sont plus jouées. Écoutons, pour la peine, un extrait du « Songe d'une nuit d'été » joué par l'ensemble philharmonique de Berlin sous la direction de Furtwängler. Dès 1933, les nazis traquent tous les acteurs du bouillonnement culturel de la République Oni. Ils interdisent par exemple Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni, l'opéra en trois actes composé par Kurt Weill sur un livret de Bertolt Brecht. Parce qu'elle remet en cause les formes traditionnelles de l'opéra classique, introduit des rythmes de blues, un texte en anglais, des personnages féminins avides d'argent facile, l'œuvre ne pouvait qu'irriter les nazis. En mars 1931, dans les cahiers mensuels du parti nazi, Hitler, l'artiste raté, assène. Les textes de Bertolt Brecht et la musique de Weill ne pourront jamais être considérés comme de l'art allemand. Avec une circonstance aggravante à ses yeux, ces deux hommes sont juifs. Alabama Song, la plus célèbre chanson de l'opéra, exprime la complainte d'un groupe de prostituées à la recherche d'une ville sans prohibition. Lotte Liena, que nous venons d'écouter, muse de Weill, en donne une interprétation lugubre. En 1967, les Doors reprennent le morceau dont ils modifient légèrement les paroles. Avec l'accession au pouvoir des nazis, les musiciens se trouvent confrontés à un choix, parfois difficile. Certains compositeurs s'accommodent de façon plus ou moins ambiguë du nouveau régime, à l'instar de Richard Strauss, qui prend la tête de la chambre de musique du Reich de 1933 à 1935. L'année suivante, il compose l'hymne des Jeux Olympiques de Berlin. Lors de la cérémonie d'ouverture, dans une arène ornée de bannières frappées de la croix gammée, il dirige lui-même sa composition. Les chefs d'orchestre Ernest von Karajan, Karl Böhm, les chanteuses Elisabeth Schwarzkopf et Zara Leander, le compositeur Hans Pfitzner et Werner Heck pactisent franchement avec le régime. Pour beaucoup d'autres compositeurs, la prise de décision s'avère très difficile. Faut-il rester dans un Troisième Reich de plus en plus hostile ou partir vers une destination inconnue en abandonnant son héritage culturel? Arnold Schönberg, Kurt Weill, Ernst Toch, Erich Korngold, Otto Klemperer se résignent à l'exil et trouvent refuge aux États-Unis. D'autres voient non seulement leur carrière brisée, mais aussi leur existence. À l'instar d'Erwin Schulhoff, juif, homosexuel, avant-gardiste et communiste, il subit une véritable chasse à l'homme. Arrêté à Prague, il est déporté à Wolfsburg, où il meurt de la tuberculose en 1942. Écoutons son Ragtime, une suite pour orchestre de chambre. Thank you. le destin du Tchèque Pavel Haas bascule avec le démantèlement de la Tchécoslovaquie en 1939. Haas, juif, sa musique moderniste, donc interdite. Déporté à Theresienstadt en 1942, il meurt gazé à Auschwitz en octobre 1944. Écoutons un extrait de son Quatuor à cordes numéro 2. Les nazis savent exclure et mettre au pilori. Ils peinent en revanche à définir ce que devrait être une musique nazie. L'organe à nouveau Wagner reste vaine, trop de talent ayant fui. Quant à ceux qui se rangent sous la bannière du nazisme, ils en étaient largement dénués. Citons tout de même Karl Orff, dont le Carmina Burana composé en 1937 met en musique 24 chants de l'abbaye de Bohême, en Bavière. La vitalité rythmique, la simplicité des mélodies et la répétition inlassable font l'intérêt d'une musique compatible avec les canons esthétiques nazis. L'absence de liberté laissée aux artistes par les nazis explique sans doute qu'aucun compositeur majeur n'ait émergé pendant leur règne. En guise de conclusion, citant l'excellent Entartete Musik, musique interdite sous le Troisième Reich, d'Élise Petit et Bruno Giner. Les auteurs écrivent « En stigmatisant, déportant et en assassinant des milliers d'artistes et intellectuels, c'était bien l'annihilation de toute une culture qui était programmée, peu avant celle de tout un peuple. » Voilà, l'émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir écouté et à bientôt.